À Nouveau Info, c'est important pour nous d'aller au-delà de l'info. Et ça commence à 17h par un regard en profondeur de l'actualité avec Marie-Christine Bergeron. À 22h, on ajoute du mordant à votre bulletin d'information. Les débatteurs se joignent à Michel Bérère pour analyser, commenter et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info.
Salut tout le monde, bienvenue à cette édition numéro 21 de notre balado-diffusion sur la glace, édition du lundi 9 mars. On est de retour après une semaine de relâche, une petite semaine de vacances. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières semaines, que ce soit au niveau du hockey junior, au niveau de la Ligue américaine également. Alors on va tenter là, au cours des 30-40 prochaines minutes de faire le tour un peu de tout ça, de ce qui s'est passé donc depuis deux semaines. On aura également des invités extrêmement intéressants à vous présenter. On va parler avec Alex-Olivier Boyer, l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke, le Phoenix qui est tout près là, de confirmer le championnat de la saison régulière dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai réalisé une entrevue également avec le défenseur Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville qui connaît une excellente première saison dans le circuit. C'est une recrue, un produit des cantonniers de Magog de la Ligue Midget 3A. On va également parler avec Joel Teasdale, l'attaquant du Rocket de Laval. Ben oui, on ne l'a pas vu encore dans l'uniforme du Rocket. Il est en réhabilitation depuis le début de la saison, une sévère blessure qu'il s'est infligée en août dernier. Et on va profiter de cette discussion avec lui pour lui parler également du film Brothers for Life qui a été tourné à Rouyn-Noranda la saison dernière, qui relate l'excellente saison des Huskies dans la Ligue junior majeure du Québec, eux qui ont gagné la Coupe Memorial. On va faire le tour également de ce qui se passe au niveau des séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3A et faire le tour de chacune des équipes dans la Ligue junior majeure du Québec. Il ne reste plus que deux semaines dans le calendrier régulier dans le circuit Courteau. Ça se précise lentement mais sûrement là, de ce que ça pourrait avoir l'air en séries éliminatoires. Les séries éliminatoires qui vont commencer là, dans quoi environ une vingtaine de jours vers le 27 mars. Ça promet particulièrement dans l'Association de l'Est. D'abord, parler du Rocket de Laval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je mentionnais, je l'avais également dit sur les ondes lors de nos matchs qu'on a présentés sur les ondes de RDS, que si le 7 avril au matin, le Rocket était toujours dans la course aux séries après une séquence de 10 matchs sur 13 à l'étranger, que ce serait intéressant. Bien, c'est le cas présentement. C'est dommage parce qu'en fin de semaine, hier et avant-hier, les Devils de Binghamton ont ajouté deux victoires. Et si on avait pu avoir un petit peu d'aide là, de d'autres équipes de la Ligue américaine, ça pourrait être plus serré que ça, mais il reste qu'en date d'aujourd'hui, avec 15 matchs à jouer au calendrier régulier pour le Rocket de Laval, dont 9 à domicile, bien, le Rocket se retrouve seulement à 4 points des Devils de Binghamton et du quatrième rang, le dernier qui va donner accès aux séries éliminatoires dans la section nord de la Ligue américaine. Le Rocket a eu 4 victoires et une défaite au cours de la dernière séquence de 5 matchs à l'étranger. Pour ceux qui nous voient avec le vidéo présentement, on aperçoit des images des deux matchs présentés à Cleveland de jeudi et vendredi où le Rocket est allé chercher des victoires de 5 à 2 et de 5 à 1. Donc, c'est 6 victoires en 7 matchs pour le Rocket. Et malgré tout, malgré cette excellente séquence, demeure 4 points derrière Binghamton et le dernier rang qui donne accès aux séries. Parlant des Devils de Binghamton, ben, c'est une des équipes de l'heure dans la Ligue américaine. 24 victoires, 7 défaites à leurs 31 derniers matchs. Ce qui va être intéressant de surveiller dans le cas de Binghamton aussi et du Rocket, c'est que 3 des 6 prochains matchs du Rocket vont avoir lieu contre les Devils, dont les deux là, qui viennent vendredi et samedi prochain à la Place Belle. Des matchs extrêmement importants là, pour le Rocket. S'il fallait que le Rocket soit balayé, ce serait difficile par la suite. Le Rocket doit gagner au minimum un de ses matchs et pourquoi pas aller en chercher peut-être deux. Ce que le Rocket réussit à accomplir présentement, c'est quand même un peu phénoménal. Quand on regarde la liste des blessés du Rocket, Belzile est blessé. Paling est blessé. Jesperi Kotkaniemi s'est blessé en début de match vendredi soir. On ne connaît pas la nature exacte de sa blessure. On parle d'une blessure à la rate. Des défenseurs blessés. Fleury est blessé. Jolson est blessé. McEnany est blessé. Alors, c'est extrêmement difficile présentement du côté des blessés. Il y a les rappels à Montréal également. Charles Hudon, Jake Evans, Lucas Vaidemo, les défenseurs Alsner, Ouellet. Il ne faut pas oublier Dale Weiss aussi qui est à Montréal depuis un bon moment. On n'a pas remplacé Pekka et malgré tout, le Rocket réussit à se débrouiller quand quand même tant bien que mal. Laurent Dauphin fait du bon travail. Il a 14 points en 24 matchs depuis qu'il s'est joint au Rocket. Yannick Veilleux, 12 buts en 25 matchs. Et devant le filet, Caden Primeau fait le travail. Et depuis qu'on a confié le rôle d'adjoint à Michael McNiven, ça va un peu mieux qu'avec Cade Kincaid. Parlant de Kincaid, il a été prêté à la formation de Charlotte. Ça ne fonctionnait plus tellement dans le giron du Rocket pour Kincaid. Il faut le dire, ses performances n'étaient pas adéquates. Donc, je vous le disais, il reste 15 matchs d'ici la fin de la saison. Il y en a 12 contre les équipes de la Division Nord, dont 3 contre Binghamton, 4 contre Belleville. Ça, ce ne sera pas des matchs faciles. 2 contre Utica, ça, c'est les équipes qui occupent les rangs entre 1 et 4. Il en reste 1 contre Syracuse et 2 contre Toronto également. Il faudra surveiller également au cours des prochains matchs l'arrivée de Jesse Ilonen, finlandais de 20 ans, qui a passé la saison avec les Pelicans de Lahti dans la Ligue élite finlandaise. Il a eu 22 points en 53 matchs. Peut-être jouera-t-il son premier match avec le Rocket ce mercredi. Match qui d'ailleurs sera présenté sur les ondes de RDS face aux Sénateurs de Belleville, l'équipe de première position dans la section Nord. Ryan Schmelzer des Devils de Binghamton a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Comme je vous le disais, les Devils roulent à un rythme d'enfer. Il a obtenu 6 points en 3 matchs. Un petit peu plus tard, on va revenir dans l'émission sur le Rocket lorsqu'on va s'entretenir avec Joel Teasdale, qui est en réhabilitation, comme je le disais, pour le Rocket, n'a pas joué un seul match encore cette saison, mais pourrait effectuer un retour au jeu là, au cours des 15 derniers matchs. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe de l'or présentement, en fait, il y en a deux. Tu as les Wildcats de Moncton qui ont perdu samedi contre Québec, mais c'était leur première défaite en temps réglementaire depuis le 11 janvier. Alors, 24 derniers matchs, on parle de 22 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité. Donc, on est allé chercher quand même 45 points sur une possibilité de 48. Et l'autre équipe, je dirais l'équipe de l'or. En fait, c'est l'équipe de l'or depuis le début de la saison. C'est le Phoenix de Sherbrooke. 13 victoires de suite. On peut dire là, que l'équipe est à 4 points là, de s'assurer du championnat. 4 points gagnés par Sherbrooke ou perdus par Moncton et l'équipe pourra s'assurer du trophée Jean Rougeau et s'assurer surtout de l'avantage de l'Atlas tout au cours des séries éliminatoires. Donc pour le Phoenix de Sherbrooke, on parle de 106 points présentement. C'est le meilleur rendement de toutes les équipes de la Ligue canadienne de hockey. 51 victoires en 63 matchs. L'équipe est première depuis un fichu de bon moment en avantage numérique, première en désavantage numérique. Bref, c'est une saison de rêve pour le Phoenix de Sherbrooke. Et cet après-midi, en enregistrant la balado, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler à un des joueurs du Phoenix. On va le retrouver au téléphone à l'instant. C'est Alex-Olivier Voyer, le vétéran de 20 ans. Salut Alex, ça va bien?
Salut, ça va très bien, merci.
Bon, écoute, t'as entendu un peu ce que je racontais sur votre équipe. C'est vraiment une saison de rêve que vous vivez présentement à Sherbrooke. Tout baigne dans l'huile. Je pense qu'autant les plus jeunes que les plus expérimentés, là, on a fait une belle chimie. Puis Sherbrooke est sur un air d'aller qui a commencé presque le jour 1 de la saison et ça ne s'est pas arrêté depuis.
Oui, exact. Écoute, on a vraiment une saison de rêve en ce moment. On est vraiment content des résultats qu'on a sur la patinoire. Puis aussi, on est confiant en notre groupe, en notre noyau de joueurs qu'on a à l'interne aussi. On a vraiment une bonne chimie d'équipe. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde, puis je pense que ça paraît sur la glace.
29 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité au Palais des Sports, Léopold Drolet. À domicile, vous êtes pratiquement imbattable. Et là, comme je le disais, vous êtes à quelques points de vous assurer de l'avantage de l'Atlas en séries éliminatoires et donc d'être assuré d'avoir l'avantage si vous vous rendez jusqu'en finale. Ça, j'imagine que ça vous met drôlement en confiance aussi. Qu'est-ce qui explique qu'à domicile, là, c'est presque la victoire assurée pour le Phoenix depuis le début de l'année?
Ben c'est sûr que on a beaucoup de participants qui viennent nous voir jouer. Je pense que leur appui, le support, l'énergie qu'il y a dans le palais des sports, c'est sûr que ça nous met dans notre élément aussi. Des fois, il y a aussi l'aspect que les coachs ils peuvent moins matcher aussi contre nous les games à la maison. Quand on se présente au palais des sports, sinon peu importe, on se présente tout le temps de la même façon, puis on se prépare comme si c'était le match le plus important de la saison à chaque partie.
J'en parlais également il y a quelques instants. Les unités spéciales fonctionnent très bien pour le Phoenix, autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques. C'est rare qu'on voit ça. Habituellement, on est bon dans une des facettes, peut-être un petit peu moins dans l'autre, mais dans votre cas, c'est vraiment excellent des deux côtés. Toi, tu participes évidemment à ces unités spéciales. Est-ce que tu as une explication aussi comment ça clique autant en termes d'avantages et de désavantages numériques?
Ben je pense qu'en avantage numérique, notre rondelle elle bouge beaucoup, puis il y a beaucoup de joueurs. Nos 5 joueurs sont dangereux sur notre avantage numérique, que ce soit Bolduc à pointe ou Poulain ou Robert sur le bord de la bande aussi. aussi le deuxième avantage numérique qui est vraiment, des fois, ils passent un petit peu moins de temps sur la glace, mais quand ils sont sur la glace, souvent, ils vont chercher un gros but aussi. Puis écoute, on met beaucoup de temps aussi à des avantages numériques dans le vidéo d'essayer de regarder les tendances des autres équipes. Donc, je pense que c'est vraiment ça la clé, tu sais, de s'adapter à chaque équipe qu'on affronte pour les unités spéciaux comme ça.
Alex Olivier, juste avant la période des transactions, j'avais eu la chance de discuter un peu avec Jocelyn Thibault, votre directeur général et copropriétaire, puis il hésitait un peu avec la période de transactions qui s'en venait de briser la chimie dans le vestiaire. Ça allait tellement bien. Là, finalement, on a fait l'acquisition de Charles-Antoine Roy des Olympiques de Gatineau et de deux défenseurs. Tu as parlé de Samuel Bolduc qui est arrivé de l'Armada, Xavier Bernard qui est arrivé de Charlottetown. Ces joueurs-là, finalement, se sont bien intégrés dans le groupe et ça se passe bien là, pour eux parce que honnêtement, vous êtes encore plus puissant peut-être depuis la période des fêtes avec ces acquisitions-là. Là.
Ah, assurément. Écoute, on est allé chercher des joueurs clés. Je pense qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'aller chercher mettons, un top 6. On avait déjà notre noyau. Puis écoute, avec l'ajout de Bolduc, de Bernard à défensive, c'est sûr que on devient une défensive assez mobile puis assez imposante aussi. Donc, c'est dur à jouer contre des défenseurs comme ça. Puis, honnêtement, depuis qu'ils sont arrivés, là, ils sont irréprochables puis ils sont vraiment bien intégrés dans notre noyau. Là.
Xavier Parent a effectué un retour au jeu en fin de semaine. C'est un bonhomme qui n'a pas joué beaucoup cette année, seulement 25 matchs. Alors, lui aussi, quelque part, ça va ajouter encore à votre profondeur. Là, vous avez connu une super saison, même s'il n'a pas été là beaucoup. C'est un gars qui a quand même vécu la finale de la Coupe Memorial l'an passé. C'est une expérience qui est non négligeable.
Non, exact. Xavier, écoute, il a vraiment bien fait ça, son retour au jeu. C'est une petite peste sur la glace. Il est assez détestable, je veux dire. Tu le veux dans ton équipe. Il a joué beaucoup de matchs en série l'an dernier. Son expérience est la bienvenue. Puis écoute, c'est comme un peu un échange qu'on vient de faire, qu'on vient d'aller chercher un joueur. Là, ça amène beaucoup de profondeur. Là, un joueur comme ça qui manque une grande partie de la saison, puis là qui arrive, ben c'est un peu comme si on avait fait un échange de dernière minute puis qu'on rajoute un atout. Là.
Qu'est-ce que tu réponds, Alex Olivier, quand les gens disent ouais, Sherbrooke, ça va être facile à aller jusqu'en finale parce qu'on regarde votre conférence sur votre côté. Là. Vous avez quoi 38 points d'avance là, sur la deuxième position avec l'Armada. Bon, t'as Drummondville également. Alors que toutes les grosses puissances, à part la vôtre, sont de l'autre côté. Est-ce que ça, c'est un piège un peu qu'il faudra se méfier en série de pas penser que ça va être trop facile, peut-être, parce que les équipes sont quand même, il y a une bonne différence de points?
Non, exact. Écoute, en série, on sait jamais ce qui peut arriver. Chaque match est important. Puis, tu sais, le hockey des séries, c'est un hockey qui est vraiment différent de la saison régulière. C'est une nouvelle saison qui commence. Puis, je pense que notre mot d'ordre, c'est vraiment de se concentrer un match à la fois, puis de prendre personne à la légère. Nous autres, on veut se rendre en finale, mais il reste beaucoup de choses à faire avant de se rendre là. Puis, on est conscient que ça sera pas vraiment facile non plus.
Toi, personnellement, tu es rendu à 44 buts cette année, tu as 20 ans. Est-ce que tu vois les opportunités s'ouvrir pour toi au cours des prochaines semaines? Est-ce que dans les dernières années, il y a eu des joueurs de 20 ans là, qui ont eu la chance de signer des contrats? Puis tout ça, est-ce que pour toi, c'est encore quelque chose de que tu vois d'une possibilité possible? Je veux dire, est-ce qu'il y a des bonnes chances que ça se produise?
Bien, c'est sûr. Écoute, en évoluant comme joueur de 20 ans dans la Ligue, c'est un peu une dernière chance de signer un contrat professionnel ou peu importe. C'est sûr que c'est mon objectif numéro un. Mais tu sais, en même temps aussi, j'ai signé avec les Aigles Bleus de Moncton. Donc l'an prochain, je compte aller là. Puis j'ai vraiment un beau plan là-bas avec les Aigles. C'est une très bonne organisation. Donc c'est sûr que par contre, j'essaie de décrocher un contrat professionnel aussi là.
6 buts en 5 matchs, est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est possible le chiffre de 50 d'ici la fin de la saison?
on va aller un but à la fois. On va commencer par 45, après ça, on verra au fil du temps.
Est-ce que tu trouves que ça a passé vite, Alex Olivier? Moi, je me rappelle encore de ton premier match avec Rimouski. Ton père, les gens ne savent peut-être pas, était juge de ligne longtemps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis il était là pour ce match-là. On vous avait fait un petit peu un spécial de pouvoir voir ton père sur la glace en même temps que toi. Est-ce que tu trouves que ça a passé vite, là, c'est cette carrière junior-là?
Oui, non, c'est incroyable. Ça a passé comme... Je me rappelle de chaque moment comme si c'était juste l'an passé ou comme si c'était la semaine dernière. Écoute, On a mis une photo justement dans, j'ai vu une photo dernièrement d'une entrevue que j'avais donnée après mon premier match. Puis je suis pas pensé de la même personne non plus. Puis tu sais, je suis rentré dans la ligue en tant que d'un jeune homme. Puis là, je deviens un homme. Puis c'est quand même bizarre de voir ça, mais en même temps, je suis quand même fier de la carrière que j'ai eue. Mais tu sais, j'en ai profité. Puis je me suis créé des très bonnes amitiés aussi. Puis j'ai adoré ma carrière jusqu'à présent. Là.
Ben, félicitations pour ce que vous avez accompli jusqu'ici cette année. Il reste beaucoup de boulot à accomplir. Le CNIC de Rimouski sera de passage à Sherbrooke en fin de semaine. C'est toujours un bon défi. Bonne chance pour le reste de la saison. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler pendant les séries éliminatoires. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Merci à toi.
Voilà. Alex-Olivier Voyer, attaquant du Phoenix de Sherbrooke. Deuxième meilleur buteur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec ses 44 buts. Egor Sokolov du Cap-Breton est le premier avec 46 buts depuis le début de la saison. C'est quand même assez impressionnant la saison que le Phoenix connaît. Je vous en parlais, là. Écoute, 13 victoires de suite, 51 victoires, c'est vraiment toute une saison. Si on fait le tour un peu des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ben, l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui a perdu hier une avance de 4 à 1, n'a que 3 victoires à ses 11 derniers matchs, mais pas mal assuré quand même de terminer le premier de la section ouest de la Conférence de l'Ouest. 6 points d'avance sur Rouyn-Noranda avec quelques matchs à jouer. C'est presque dans le sac pour l'Armada. Les Voltigeurs, 6 victoires de suite avant de perdre hier à Moncton. Belle performance cette semaine de William Dufour. D'ailleurs, il a été choisi joueur de la semaine avec ses 9 points en 3 matchs. En fait, il l'avait réalisé en 2 matchs, puisqu'hier, il a été blanchi. Xavier Simoneau aussi, 9 points en 2 matchs. Le duo a été sensationnel là, en fin de semaine dans les Maritimes. Les Huskies de Rouyn-Noranda demeurent quand même 6 points derrière l'Armada. Se battent pour garder l'avantage de la glace en première ronde, donc 5 victoires à leurs 13 derniers matchs. Les Tigres de Victoriaville, 12 victoires en 18 matchs, se sont replacés. Un petit peu plus difficile du côté de Shawinigan, 3 défaites de suite. On a une fiche de 6-4 et 2 avec Gordy Dwyer comme entraîneur-chef. On s'ennuie là, de Maverick Bourque, il n'y a pas de doute du côté des Cataractes. C'est plus difficile à Val-d'Or, une seule victoire en 7 matchs et une seule en 4 depuis l'arrivée de Daniel Renault derrière le banc. Il faut dire qu'on a joué 2 matchs contre Sherbrooke. On a accordé 26 buts en 5 matchs. C'est un petit peu plus difficile pour Val-d'Or. Les Olympiques sont allés chercher une grosse victoire hier contre l'Armada. Tiraient derrière 4 à 1 après une période finalement longtemps portée en tir de barrage. Ils ont 6 points d'avance sur les Moussets d'Halifax. Ça sent là bientôt une place en série pour Gatineau. La série va se poursuivre depuis 1984. On n'a pas raté les séries du côté des Olympiques. Dans l'Association de l'Est, je vous ai parlé de Moncton qui a perdu un match contre Québec en fin de semaine, mais qui demeure quand même là, une des excellentes formations. Imaginez un peu une fiche de 38 et 0 lorsque l'équipe mène après 2 périodes. C'est phénoménal. Les Sags se sont replacés, 5 victoires de suite, 5 buts accordés seulement dans les 5 derniers matchs. Samuel Hood est revenu au jeu au cours des derniers matchs. Les Sags qui ont une fiche de 8 et 0 contre le Drakkar de Baie-Comeau cette saison. Il leur reste encore 2 matchs à jouer contre Baie-Comeau et ça pourrait être un adversaire potentiel des Sags en première ronde. L'Océanic de Rimouski, on va avoir de la difficulté à demeurer devant le Cap-Breton. Le Rimouski présentement à 84 points, le Cap-Breton en a 83, mais 2 matchs en main. Alors peut-être que le Cap-Breton va coiffer Rimouski là, pour le 3e rang de la section de l'association. Le Cap-Breton qui a 23 victoires à ses 29 derniers matchs. Les Islanders de Charlottetown, 6 victoires de suite. Je veux souligner également le record de Matthew Welsh qui a passé 13 000 minutes devant le filet depuis le début de sa carrière dans la Ligue junior majeure du Québec. Pardon, ça a été battu le 28 février dernier. C'est toute une marque pour Matthew Welsh qui est le joueur académique de l'année. Je vais vous en reparler d'ailleurs des candidats au titre de joueur académique un petit peu plus tard au cours de l'émission. Les Sea Dogs de Saint-Jean, ça va moins bien. 4 défaites de suite et j'aime pas les pointage. Quand tu perds des matchs de 6-2, 6-2, 6-2, 8-2, t'accordes 26 buts en 4 matchs à l'aube des séries éliminatoires, c'est jamais une bonne nouvelle. On continue de donner 40-50 lancés par match, c'est beaucoup trop. Baie-Comeau n'a que 5 victoires à ses 23 derniers matchs, est en lutte avec Québec là, pour le 7e et le 8e rang de l'Association de l'Est. Les Remparts, ben, grosse victoire à Moncton samedi. Ils ont stoppé les Wildcats, une victoire quand même impressionnante. 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Je souligne également la 400e victoire de Patrick Croix comme entraîneur-chef. C'est survenu le 1er mars dernier. Et Roy a fait ça en 673 matchs. Ça, c'est le plus faible total de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Les Mooseheads, ben, on s'en va vers une élimination. Le 6 points de retard sur Gatineau. Donc, 4 victoires à leurs 31 dernières sorties. Et le Titan de Batters qui est éliminé pour une 2e année de suite. Mais tout de même a battu la fiche de Victoriaville pour le total de points pour 2 saisons. Au début des années 90, Victoriaville n'avait obtenu que 55 points de classement en 2 ans. Batters Rangers menaçait cette marque-là. Finalement, on est rendu à 58 en 2 ans. Mais il reste que le Titan ne participera pas aux séries. Parmi les belles histoires de la saison, il y a le défenseur Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville qui a 51 points en 63 matchs. C'est une recrue, quand même une recrue de 18 ans, il faut le dire, toutefois, du côté des Voltigeurs. Mais il est quatrième parmi les meilleures recrues du circuit en termes de points. Cinquième pointeur chez les défenseurs. Et lors d'un récent passage à Québec, je me suis entretenu quelques instants avec Jacob Dion. On vous présente cette entrevue. Jacob, si je t'avais dit en début de saison que tu aurais la saison que toi, t'aurais-tu cru ça possible?
Peut-être pas autant que ça va bien présentement. Écoute, je voulais avoir du succès, c'est sûr, mais écoute, ça va super bien mon côté. Mais en même temps, j'ai fourni les efforts l'été passé, depuis l'année passée en préparation pour cette année. J'ai un peu surpris, mais en même temps, je pense que c'est quelque chose que j'avais essayé de bâtir.
Rester à 17 ans dans le Média 3 l'an passé, ça t'avait-tu déçu un petit peu?
Ah, c'est sûr, j'avais été déçu que j'avais été coupé. Écoute, tu veux jamais revenir à cet âge-là dans le Média 3. En même temps, avec du recul, ça a été bon pour moi. J'ai pris de la confiance, mais sur le coup, sûr, ça a été un peu décevant. Mais en même temps, aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, je suis un peu content de ça, là.
Quand on regarde les Voltigeurs, moi, pour moi, c'est une des belles surprises de la saison. Quand je regardais les alignements en début de saison, on faisait des prédictions, puis on vous donnait pas grand-chance, puis vous êtes maintenu tout au long de l'année, même avec les gars qui sont partis, comme Dawson Mercer notamment. Tu t'expliques ça comment, là, comment ça a quand même bien été pour vous cette année?
Je pense qu'on a un groupe qui est vraiment soudé. On a, malgré que le départ de Dawson et tout, on a des joueurs qui, sans être tous des super vedettes, je pense que c'est des joueurs qui font leur travail très bien. Je pense qu'on n'a pas. En suivant ce que Steve nous dit depuis le début de la saison, on a réussi à bâtir une chimie qui nous a vraiment aidé depuis le début de la saison. Puis essayer d'être le club un peu underdog, ça nous a aidé aussi. Le monde ne s'attendait pas à trop ce qu'on ressorte, puis ça nous a peut-être aidé à pouvoir battre des gros clubs, là.
Vous avez la chance de jouer dans l'Association de l'Ouest. Bon, il y a Sherbrooke, mais pour le reste, c'est bien malin qui peut prédire qu'il va se rendre en demi-finale. Vous avez une chance, dans le fond, de pouvoir faire ça, d'aller jusqu'au carré d'or?
Ah, c'est sûr qu'on pense qu'il y a comme un trou pour se rendre là, malgré que toutes les équipes peuvent surprendre dans cette ligue-là, mais on voit qu'il y a une opportunité. Fait que continuer à bien jouer en fin de saison, ça va juste nous aider pour bâtir dans les séries, là.
J'ai envie de te poser une question ou deux sur les cantonniers de Magog. Tu étais là pendant 2 ans, ils ont gagné pendant 2 ans, même si l'an passé, bon, Lévis menait puis tout ça, mais ils ont quand même été jusqu'en finale. Ils sont encore champions de l'année cette année. Félix Potvin, qu'est-ce qui fait que les cantonniers, c'est spécial depuis 2-3 ans?
C'est sûr que Félix est un très bon coach avec l'expérience qu'il a eu dans la Ligue nationale qui nous explique comment ça joue le hockey pour vrai, mais aussi toute l'organisation autour. On est tellement bien traité par rapport à... Je ne peux pas m'avancer sur les autres équipes dans la Ligue, mais nous, on a des bons équipements, de bonne nourriture et tout. Je pense que ça fait une différence. Puis en fin de saison, c'est là qu'on voit que Magog, c'est vraiment une très bonne organisation.
D'avoir perdu 2 fois le dernier match de la saison, ça doit être quelque chose qui, quand tu y repenses, c'est difficile.
C'est sûr que c'est pas le fun, mais en même temps, se rendre là, c'est quand même... L'expérience va poser ça toute ta vie, là, fait que je suis quand même content pour.
Est-ce que tu es encore en contact avec des gars qui sont là cette année et qui ont une bonne équipe encore cette année? Est-ce que, d'après toi, ils ont une chance? Est-ce qu'ils sont meilleurs que ce que vous étiez peut-être l'an passé?
Je pense que c'est un club qui ressemble un peu à l'année passée, sans avoir d'extrême vedette comme on ne pouvait pas avoir l'année passée, mais qu'on avait peut-être l'année d'avant avec William Villeneuve, Patrick Gay. Une équipe qui ressemble beaucoup à l'année passée. C'est sûr, j'ai fait mon petit tour dans le temps de Noël pour aller parler avec les gars, mais je me rends compte qu'ils ont encore une très bonne chimie comme on a pu avoir pendant les 2 années avant. Ça les aide beaucoup, puis je crois vraiment qu'ils sont capables de se rendre loin dans les séries.
Bonne fin de saison, Kevacha.
Yes, merci beaucoup.
Alors voilà, c'était Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville. 51 points en 63 matchs. Je regardais les 5 meilleurs défenseurs en termes de points dans la Ligue junior majeure du Québec cette année. William Villeneuve des Sea Dogs est au premier rang. Jacob en parlait. C'est un produit des cantonniers de Magog. 58 points. On a Jérémy Poirier qui est deuxième à 53. Isaac Béliveau, une autre recrue avec l'Océanique de Rimouski, aussi un produit des cantonniers de Magog. 53 points. Jordan Spence des Wildcats, 52. Et Jacob Dion, 51 points. Dion qui vient au troisième rang pour les buteurs derrière Poirier, derrière Jérôme Gravel, également des Tigres de Victoriaville, avec 17 buts cette saison. C'est une excellente première campagne pour le défenseur des Voltigeurs de Drummondville. Un autre jeune dont je voulais vous parler un petit peu, on l'a déjà reçu en l'entrevue ici à Sur la glace, c'est Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski, qui hier a marqué son 30e but de la saison à Shawinigan. Il n'a que 16 ans, faut-il le rappeler. Depuis les 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est seulement le 9e joueur de 16 ans à atteindre le plateau des 30 buts. Je vais vous nommer les autres, vous allez voir qu'il est en bonne compagnie. Sidney Crosby en avait marqué 54, Alexis Lafrenière 42 à 16 ans, Angelo Esposito des Remparts 39, Pierre-Marc Bouchard des Saguenay-Chicoutimi 38. Alors ces quatre-là, là, ça a été des choix. Ben, en tout cas, Lafrenière ne l'est pas encore, mais ça leur a été quatre choix de première ronde dans la Ligue nationale. Il y en a trois autres qui ont marqué 31 buts à l'âge de 16 ans, Nathan MacKinnon, aussi un premier choix, Anthony Duclair et Steve Bernier. Et là, Bolduc en a 30 à égalité avec Daniel Sprong. Donc, s'il réussit à marquer, mettons, deux buts d'ici la fin de la saison, il reste quatre matchs à l'Océanique, pourrait devenir le 5e meilleur buteur à l'âge de 16 ans là, au cours des 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est quand même un fait d'armes intéressant. Et faut-il le rappeler, Zachary Bolduc a manqué des matchs en début de saison puisqu'évidemment, il avait lorgné du côté de l'université, des universités américaines. Alors, ça lui a fait rater quelques matchs depuis le début de la saison, mais il en demeure pas moins que c'est une excellente campagne pour Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski. Peut-être vous parler, j'en ai glissé un mot tantôt également, des candidats au titre de joueur étudiant par excellence, le trophée Marcel Robert dans la Ligue junior majeure du Québec. Vous savez, on n'en parle pas toujours assez. Et la semaine dernière, la LHJMQ a publié le nom des 18 candidats. Il y en a un par équipe qui sont en course, sont en liste donc pour gagner le trophée Marcel Robert. Alors, je vais prendre le temps de vous les nommer, je pense que c'est important. Titan d'Acadie Bathurst, Mathieu Desgagnés. Drakkar de Bécomo, Gabriel Proulx, Armada de Blainville-le-Bois-Briand, Simon Lavigne, Screaming Eagles, plutôt les Eagles du Cap-Breton, Derek Gentile, les Islanders de Charlottetown, le gardien Matthew Welsh, c'est le gagnant en titre du trophée l'an dernier, donc va tenter de le remporter pour une deuxième année de suite. Le capitaine des Saguenayens et espoir du Canadien, Raphaël Harvey-Pinard, est également en liste. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, Isaiah Campbell. Chez les Olympiques de Gatineau, Mannix Landry, des Moussets d'Halifax, Justin Barron, ça c'est un espoir de première ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Des Wildcats de Moncton, Christian Huntley. Les Remparts de Québec, la recrue de 16 ans, James Malatesta. De l'Océanique de Rimouski, Nathan Ouellette. Des Huskies de Rouyn-Noranda, Mathieu Gagnon. Des Sea Dogs de Saint-Jean, Alex Drover. Des Cataractes de Shawinigan, Gabriel Denis. Du Phoenix de Sherbrooke, le vétéran Félix Robert. Des Foreurs de Val-d'Or, Jacob Gaucher. Et des Tigres de Victoriaville, Jérôme Gravel. Donc, ces 18 candidats sont en liste pour gagner le trophée Marcel Robert qui sera remis aux joueurs étudiants par excellence. Ça va se passer au Gala des Rondelles d'Or dans environ quoi un mois, le 8 avril le prochain. Ça va se passer à Brossard au Théâtre L'Étoile mercredi le 8 avril prochain. On va honorer les meilleurs joueurs de la dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les meilleurs dirigeants, les meilleurs entraîneurs également. Alors, ce sera une soirée, encore une fois, haute en émotion. Et c'est au cours de cette soirée aussi qu'on va procéder à l'intronisation des nouveaux membres au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être vous parler un peu de ce qui se passe dans les deux autres ligues au pays. En Ontario, ben, on a beaucoup parlé depuis le début de la saison des 67 d'Ottawa. Ils sont toujours au premier rang avec 49 victoires et 99 points. Les 67 qui s'en vont lentement mais sûrement là, vers le championnat de la saison régulière dans la Ligue de l'Ontario, dirigé de main de maître par André Tourigny. Marco Rossi, l'espoir de première ronde l'Autrichien, est toujours au premier rang des compteurs de l'Ontario avec 116 points. Il est aussi premier de la Ligue canadienne de hockey, 4 points de plus qu'Alexis Lafrenière qui est à 112. Ils ont un marqueur de 50 buts également du côté des 67. Jack Quinn, un autre espoir, 51 buts depuis le début de la saison. Il connaît une excellente campagne. Parlant de marqueur de 50 buts, il faut que je vous parle de Nick Robertson des Peets de Peterborough qui, le 1er mars dernier, a marqué son 50e but de la saison en 43 matchs seulement. C'est un jeune de 18 ans, 5 pieds 9, 175 livres. Il a été un choix de deuxième ronde des Maple Leafs en juin dernier. Et là, il est rendu à 55 buts en 46 matchs depuis le début de la saison. C'est un marqueur né, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est peut-être un joueur que certaines équipes vont regretter. Il a glissé jusqu'en deuxième ronde. Certaines équipes le voyaient peut-être en fin de première ronde l'an dernier. Bref, il n'a pas fait mentir jusqu'à présent du côté des Peets de Peterborough. Et surtout, il fait le délice des recruteurs des Maple Leafs de Toronto. Un petit mot sur l'espoir du Canadien Cameron Ellis du Storm de Guelph. 81 points en 61 matchs. Connaît une bonne saison. Ellis, qui avait été blessé l'an dernier, a su éviter la liste des blessés cette année. Un petit mot également sur Shane Wright, cet espoir de 15 ans à qui on a donné la permission de jouer dans la Ligue canadienne à l'âge de 15 ans. Il est rendu à 39 buts en 58 matchs, 66 points. On vous prépare d'ailleurs un reportage sur Shane Wright pour Hockey 360 là, au cours des prochains jours. Je suis allé le rencontrer il y a quoi, 3 semaines à Kingston. On va vous présenter ça très prochainement. Pour l'instant, son équipe Kingston se bat avec Niagara et North Bay pour participer aux séries éliminatoires. Ce ne sera pas facile pour les Frontenacs. 2 matchs contre Ottawa pour terminer la saison notamment. Quand on jette un coup d'œil également au classement dans l'Ontario, on se rend compte que les Knights de London sont rendus à 92 points. Vous savez, il y a des certitudes dans la vie. Hein? On sait qu'un jour il va pleuvoir, on sait qu'un jour on va mourir. Et on est presque sûr que les Knights de London vont aller chercher pas loin de 100 points à chaque saison. C'est assez phénoménal. Pour la 13e fois en 17 ans, ils pourraient atteindre le plateau là, ils ont atteint le plateau 13 fois au cours des 17 dernières années de 90 points. C'est hallucinant. 100 points, les Knights ont fait ça 9 fois au cours des 16 dernières années. Ils ont la possibilité de le faire encore cette année. Et 3 fois, ils ont arrêté le compteur à 99 points. Alors imaginez, là, on parle de... Dans le 3/4 de leur saison, 12 fois dans les 16 dernières années, minimum 99 points. Et on ne sera pas loin de ça. Il reste encore 6 matchs. Et la troupe de Dale Hunter est à 92 points. C'est phénoménal. Quand on est partisan des Knights de London, on dirait que la reconstruction, ça n'existe pas. On réussit à éviter là, les cycles de reconstruction, justement. Et ça fonctionne très bien. Si ça marche pour London, ça marche moins pour le Sting de Sarnia. Je consultais mes notes. Le Sting s'est encore une fois éliminé des séries éliminatoires. Ça va être la 6e fois en 26 ans que l'équipe existe, qu'on est exclu des séries. Vous allez dire, c'est quand même pas si mal. On a fait les séries 20 fois en 26. Mais l'équipe n'a jamais atteint la ronde demi-finale. On a gagné seulement 4 rondes éliminatoires au cours des 26 années de la franchise. Imaginez, vous êtes un partisan du Sting de Sarnia, le carré d'as, vous ne connaissez pas ça depuis 26 ans. Et cette année, c'est une autre exclusion des séries. L'équipe est en ce moment 18e au classement général. Bref, c'est pas facile pour le Sting de Sarnia. Dans la Ligue de l'Ouest, les Winter Rocks de Portland sont toujours au premier rang avec 97 points, 45 victoires. Puis, c'est toujours Adam Beckham des Chiefs de Spokane qui est au premier rang des pointeurs de la Ligue de l'Ouest avec 106 points depuis le début de la saison. Et enfin, on peut le dire aussi, parce que c'était quand même une hypothèse qui aurait pu être assez catastrophique, les Rockets de Kelowna ont finalement assuré leur participation aux séries éliminatoires. 64 points seulement en 62 matchs. Ça va être une des équipes hôtesses de la Coupe Memorial avec le nombre de points le plus faible dans l'histoire. J'ai l'impression que ça va être difficile pour les Rockets de Kelowna d'éviter une élimination en première ronde. Et là, on va parler encore une fois d'un repos de 40 jours pour cette équipe avant de disputer le tournoi à compter du 23 mai en Colombie-Britannique. Alors, c'est pas évident. Ici en Ontario, Cam Ellis, l'espoir du Canadien, va bien avec 81 points. C'est la même chose pour Cole Fonstad dans l'Ouest avec les Silver Tips de Everett. Il a 74 points en 60 matchs cette saison. Et si je vous parlais du Sting de Sarnia en Ontario qui ne participait pas aux séries très souvent, bien, c'est un peu la même chose pour les Cougars de Prince George dans la Ligue de l'Ouest qui sont à nouveau exclus des séries cette année. Dans les 13 dernières années, depuis 2008, 8 fois on a raté les séries et 5 fois on s'est fait éliminer en première ronde. Donc, on a... pas gagné en série là, au cours des 13 dernières années du côté de Prince George. Ça devient quelque peu long. Il y a pas, c'est pas facile pour quand on est partisan là, des Cougars de Prince George qui, honnêtement, là, connaissent beaucoup de difficultés encore. Et c'est pas facile de jouer à Prince George parce que c'est loin. Hein. C'est un peu comme le Cap-Breton dans la Ligue junior majeure du Québec. La franchise, géographiquement parlant, est isolée un peu dans le nord de la Colombie-Britannique. Bref, les Cougars vont rater les séries encore cette année. Un sujet qui a beaucoup fait jaser également au cours des derniers jours, c'est l'élimination de Cole Caulfield. Cole Caulfield, ce premier choix du Canadien, a terminé sa première campagne avec les Badgers de Wisconsin avec 36 points en 36 matchs. Il termine donc au 25e rang des pointeurs de la NCAA, mais il termine deuxième pour les joueurs de 19 ans et moins. Seul Alex Newhook, qui a fait 42 points, l'a devancé. C'est aussi Caulfield qui a terminé premier pour les buts chez les recrues dans la NCAA. Donc, il a connu une bonne première saison, mais son équipe a été éliminée par les Buckeyes d'Ohio State samedi. Donc, qu'est-ce que fait Cole Caulfield maintenant? Il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de possibilités. Évidemment, il peut retourner à Wisconsin l'an prochain. Si c'est le cas, ben, il ne pourra pas participer au camp d'entraînement de la Ligue de hockey, de la Ligue nationale l'an prochain. Il devra demeurer avec son équipe universitaire. Il y a la deuxième possibilité, c'est qu'il abandonne l'université tout de suite et qu'il se rapporte, qu'il signe un contrat professionnel avec l'organisation du Canadien, il se rapporte directement avec le Canadien ou encore avec le Rocket de Laval, pourrait terminer la saison avec Laval dans la Ligue américaine. Et la troisième possibilité, c'est qu'il se retrouve avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue junior de l'Ontario. Vous allez dire, on voit pas ça souvent, un gars qui a joué à 18 ans dans la NCAA et à 19 ans dans la Ligue canadienne. Mais le dernier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Louis Leblanc, qui avait fait ça après avoir joué à Harvard à 18 ans. Il a joué avec le junior de Montréal à 19 ans. Alors, c'est une possibilité. Et le père de Cole Caulfield est originaire de Sault-Sainte-Marie. Et ce sont les Greyhounds qui ont les droits de Caulfield comme un choix de 12e ronde en 2018. Alors, il y a trois possibilités. On devrait en apprendre un petit peu plus au cours des prochains jours. Je vous parlais en début d'émission qu'on aurait la chance de s'entretenir avec Joel Teasdale, l'attaquant du Rocket de Laval, qui est sur la liste des blessés. J'ai deux sujets que je veux aborder avec lui. On le retrouve tout de suite au téléphone. Salut, Joel.
Ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi?
Ben oui, merci.
Écoute, Joel, premièrement, comment vas-tu dans la mesure où est-ce qu'un retour cette saison est toujours envisageable pour toi? On parlait d'une absence de 7 mois à la mi-août. Là, on arrive à la mi-mars. C'est pas mal ça, 7 mois. Où t'en es dans ta réhabilitation?
Je te dirais que ça va de mieux en mieux. J'ai recommencé à embarquer sur la patinoire puis à faire des entraînements avec les physiothérapeutes du Rocket. Donc, on y va tranquillement. On essaie de pas trop pousser les choses parce que c'est important de pas revenir trop vite avec ce genre de blessure-là puis une opération. Donc, on y va tranquillement, mais il y a beaucoup de progrès puis ça regarde bien pour la suite.
On parlait d'une déchirure, un ligament qui est survenu au mois d'août pendant le camp d'entraînement. Ben, en fait, avant le camp d'entraînement, est-ce que tu sens que la force est pas mal là, est pas mal revenue dans ton genou, là?
Je te dirais que la force en tant que telle, oui, est revenue parce que ça fait environ 4 mois que, pendant 4 mois, je me suis entraîné juste à la gymnase à travailler pas mal sur ça puis à travailler sur plein d'autres aspects aussi de l'entraînement physique. Donc, pour la force, oui, maintenant, c'est juste de retrouver comme toute la fluidité du patin puis de tout retrouver mes repères sur la glace, là.
La saison dans la Ligue américaine, si évidemment il n'y a pas de série éliminatoire, là, ça finit vers le 11-12 avril. Est-ce que tu penses vraiment là, qu'il y a une possibilité que tu joues au moins quelques matchs cette saison avec le Rocket?
Je te dirais que le plan, c'était au début de l'année, c'était clair que je ne jouerais pas de match cette année. Mais il va falloir voir rendu là parce qu'on a parlé avec les physiothérapeutes puis. Je pourrais être prête à jouer, mettons, quand il va rester 2-3 parties à la saison, okay. Mais à voir si c'est la bonne décision à prendre de jouer pour juste 2-3 parties, ben tout dépendant aussi de la position du Rocket pour les séries éliminatoires. Mais tout dépendant, tout ça est en prise de compte, donc on va discuter rendu à ce moment-là, mais pour l'instant, je me suis mis dans la tête que je ne jouerai pas cette année.
À quel point c'est difficile, là, quand on était joueur de hockey toute sa vie, là, tu devais faire le saut chez les professionnels cette année, de ne pas être en mesure de jouer. J'imagine que c'est immensément frustrant, là, même si tu as eu le temps là, depuis 7 mois d'avaler la pilule, comme on dit.
Ben oui, c'est ça, c'est frustrant puis c'est dur pour le moral. Moi, étant un joueur de hockey, et puis ayant joué au hockey depuis que j'ai 4 ans, puis avoir jamais arrêté, puis jouais même l'été, donc... Moi, avoir été 7 mois arrêté de jouer au hockey, c'est la plus longue période que j'ai arrêté de faire le sport que je pratique depuis toujours. Donc, c'est sûr que ça a été difficile, mais ça apprend à découvrir d'autres aspects de ce sport-là, que c'est sûr que ça va arriver des blessures pour n'importe qui, puis je vais grandir de ça, c'est sûr.
On s'entretient avec Joel Teasdale du Rocket de Laval. Tu demeures quand même dans l'entourage de l'équipe. Tu vois comment c'est assez phénoménal ce que le Rocket réussit à faire depuis quelques temps avec tous les joueurs rappelés, tous les blessés qu'il y a eu. L'équipe est malgré tout là, à 4 points de participer aux séries éliminatoires. Il se passe quelque chose d'intéressant dans ce vestiaire-là là, avec Joël Bouchard et les adjoints. Là.
Ben oui, c'est sûr. Joël, ça fait longtemps que je le connais en l'ayant eu junior. Quand il a son plan en tête, c'est faut que ça aille par là, puis c'est noir ou c'est blanc avec lui. Puis les joueurs, ils commencent à vraiment embarquer dans son plan, puis à voir que quand ils font ce qu'ils demandent, ben ça marche vraiment, puis c'est vraiment beau à voir. Puis même comme tu as dit, avec toutes les blessures, tous les rappels, toutes les échanges, même malgré tout ça, c'est quand même très bon à voir.
Joël, tu as eu la chance de renouer avec tes anciens chums des Huskies de Rouyn-Noranda au cours des derniers jours avec la présentation du film qu'on a tourné l'an dernier, Brothers for Life, qui a été présenté au rendez-vous du cinéma québécois le 29 février dernier. Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir ces images-là, le film en question? Moi, j'ai eu la chance de le voir. Je le recommande aux gens qui auront la chance également et qui aiment le hockey. Mais de revoir cette épopée-là là, des Huskies de Rouyn-Noranda qui ont gagné la Coupe Memorial l'an dernier.
Bien, pour moi, c'est vraiment spécial. J'ai pu le vivre, puis avoir remporté les deux coupes, puis avoir fait partie de tout ça, puis de pouvoir avoir des souvenirs comme ça, puis de pouvoir les regarder quand que je veux, parce qu'on a eu des CD. Bien, c'est sûr, c'est spécial, puis c'est des souvenirs que je vais avoir à vie. Même avec, je les aurais déjà eu dans ma tête, malgré tout ça. Mais à l'avoir en CD, c'est encore mieux, puis c'est vraiment spécial de voir tout ça. Sur un grand écran.
L'an passé, quand le directeur, le réalisateur de ce film-là, Martin Guérin, tournait ça, évidemment, quand il a commencé, il ne savait pas ce que ça donnerait au bout. Il ne savait pas que les Huskies étaient pour tout rafler. Mais ça devient une pièce de collection drôlement intéressante parce qu'on avait vraiment des accès là, aux vestiaires puis aux réunions d'équipe et tout ça. On avait l'impression d'être avec vous autres sur la patinoire. Là. Alors, c'est quelque chose vraiment là, qui est fait de façon très professionnelle et qui montre vraiment ce que vous avez traversé à travers cette conquête-là. Là.
Oui, bien, Martin, c'est ce qu'il a pu faire avec tous les petits extraits vidéo qu'il avait filmés, pas pour nécessairement pour un film. Lui, il faisait juste filmer des affaires comme ça pour avoir des petites capsules à mettre sur Facebook de 4-5 minutes. Fait que d'avoir pu monter un documentaire, un film de 45 minutes, c'est sûr que c'est remarquable le travail qu'il a fait. Puis il faut souligner aussi qu'il a tout fait ça tout seul. Donc, vraiment, je lève mon chapeau pour le travail qu'il a fait.
Bien, Joël, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta réhabilitation. Qui sait, peut-être que si le Rocket fait un bon bout de chemin en série, à un certain moment, on aura besoin d'un gars qui a l'habitude de bien performer en séries éliminatoires par tout ce qu'il passe. Puis on aura peut-être l'occasion de te revoir sur la glace très bientôt dans un match à RDS. Merci beaucoup. Salut, Joël.
Bonne soirée.
Voilà, c'était Joël Teasdale, donc attaquant du Rocket de Laval, qui nous parlait quelque part sur l'autoroute. En tout cas, il semblait être sur la route, mais on est bien content d'avoir réussi à discuter un peu avec lui. Lui qui a subi une blessure quand même très grave là, au mois d'août 2019 et qui lentement mais sûrement s'approche d'un retour au jeu. Évidemment, c'est pas évident là, si, comme il le mentionnait, là, la date butoir pour revenir était au début avril et que le Rocket est impliqué dans une course aux séries. Quand t'as pas joué depuis aussi longtemps, peut-être qu'on a le reverra pas sur la glace et qu'il faudra attendre là, au camp d'entraînement l'an prochain pour voir les débuts de Joël Teasdale, qui, rappelons-le, avait amassé 80 points en 66 matchs la saison dernière avec l'Armada et les Huskies et qui a été drôlement important pour les Huskies de Rouyn-Noranda dans la conquête. D'abord dans la victoire contre Halifax en finale de la LHGMQ et par la suite au tournoi de la Coupe Memorial. Il avait marqué un gros but dans cette finale de la Coupe Memorial pour faire un peu virer le match de côté. Peut-être pour revenir sur le film Brothers for Life qui a été présenté au rendez-vous du cinéma québécois. Comme je le disais à Joël, j'ai eu la chance de visionner. Ça dure une quarantaine de minutes. C'est extrêmement bien fait. Alors, félicitations au réalisateur Martin Guérin. Il y aura une sortie probablement DVD numérique là, au cours des prochaines semaines. Donc, à surveiller. Brothers for Life, c'est la conquête des Huskies de Rouyn-Noranda 2018-2019. Un excellent film qui a été réalisé par Martin Guérin à Rouyn-Noranda l'an dernier. Peut-être vous mentionner quelques petites nouvelles de la Ligue Midget 3 avant de terminer. Évidemment, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, alors j'ai pas pu vous parler de la fin de la saison. Peut-être souligner le championnat des pointeurs d'Alexis Morin du Blizzard du Séminaire Saint-François qui a terminé la saison avec 55 points. C'est le plus faible total par un champion compteur de la Ligue Midget 3 dans toute l'histoire de la Ligue. Malgré tout, c'est une excellente saison pour Alexis Morin. Et je veux mentionner que 3 des 6 premiers pointeurs de la Ligue Midget 3 cette année appartiennent aux Voltigeurs de Drummondville. Morin, d'abord, qui a été un choix de 11e ronde des Voltigeurs et qui a joué 6 matchs avec les Voltigeurs cette année. Au 3e rang, Elliott Lavoie des Chevaliers de Lévis, 54 points. Et également au 6e rang, Jérémy Sainte-Marie du Blizzard du Séminaire Saint-François, 50 points. Et le gardien qui a maintenu la meilleure moyenne de buts alloués des cantonniers de Magog, Mathis Dorcal-Mador, 1,57, est aussi un joueur qui appartient aux Voltigeurs de Drummondville. Alors, c'est drôlement intéressant pour les Voltigeurs, l'avenir là, qui s'annonce, eux qui ont beaucoup de jeunes dans l'équipe, les Jacob Dion, les William Dufour et compagnie. Donc, des jours meilleurs pour les Voltigeurs, quoique cette année, je me répète, ils ont vraiment été surprenants. Peut-être vous parler des séries de la Ligue Midget 3A. La première ronde est déjà terminée. Les 8 séries de première ronde là, qui ont pris fin hier, dimanche. Des victoires donc pour Magog, pour Lévis, pour Laval-Montréal, pour Saint-Hyacinthe, pour Châteauguay, pour Saint-Eustache et pour Lac-Saint-Louis. Donc, ces 7 équipes accèdent au deuxième tour des séries qui va commencer demain, le 10 mars. Et le Collège Notre-Dame, qui avait terminé dernier au classement général, a obtenu un laissez-passer en première ronde. Pas parce qu'on favorise l'équipe qui a terminé dernier, mais souvenez-vous, c'est le Collège Notre-Dame qui avait gagné ce fameux challenge au mois de décembre, le tournoi que la Ligue organise chaque année. Et le prix pour cette victoire au challenge, bien, c'est d'obtenir justement un laissez-passer en première ronde. Alors, le Collège Notre-Dame, 15e et dernier au classement général, va maintenant faire son entrée en deuxième ronde. Ce ne sera pas commode contre les cantonniers de Magog qui ont... comme je le disais, là, balayer là, les riverains du Collège Charlemagne en première ronde. Il y a eu quelques surprises dans cette première ronde. L'équipe de 11e place, Saint-Hyacinthe, qui a éliminé le séminaire Saint-François. Faut-il rappeler que les Gaulois de Saint-Hyacinthe, c'est l'équipe hôtesse de la Coupe TELUS cette année. Alors, on l'a emporté en 5 matchs, une série 3-5. Châteauguay également, qui a surpris Jonquière, les 10e contre les 5e. Les élites de Jonquière qui n'ont marqué que 2 buts en 3 matchs dans cette série. Et Saint-Eustache, dans une moindre mesure, a surpris aussi les Estacades de Trois-Rivières. Il y avait 7 points d'écart entre les deux équipes. Saint-Eustache qui a eu le meilleur en 5 matchs contre les Estacades. Donc, en quart de finale, c'est Magog contre le Collège Notre-Dame. Là, qu'on parle quand même d'une différence de 69 points au classement. Ça va être extrêmement difficile pour les Albatros. Lévis contre Saint-Hyacinthe, Laval-Montréal contre Châteauguay et Lac-Saint-Louis contre Saint-Eustache. Ça commence demain et si les séries vont en 5 matchs, ça va aller jusqu'à mardi prochain. J'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Peut-être en terminant, vous mentionnez que le championnat mondial féminin de hockey a été annulé en raison du COVID-19. Ça devait commencer à Halifax le 31 mars prochain. La Fédération internationale de hockey sur glace a annulé ce tournoi. Et ça m'amène à penser que peut-être également le championnat du monde des moins de 18 ans pourrait être en péril. Au mois d'avril, c'est prévu dans la région de Détroit à Plymouth. Du 16 au 26 avril, on le sait, chaque année, c'est un tournoi qui est extrêmement important pour les recruteurs de la Ligue nationale parce qu'on voit tous les joueurs admissibles à la séance de sélection qui se présente à ce tournoi-là. Alors, je ne sais pas si la Fédération internationale va rendre une décision bientôt. On parlait peut-être d'avoir une décision vers la fin de la semaine, cette semaine. Pour l'instant, c'est toujours à l'agenda, mais c'est de plus en plus douteux, surtout que la Fédération internationale a annulé plusieurs événements en Europe également, en ce qui a trait au moins 18 ans dans les catégories inférieures, la Division 1, Division 2, Division 3, etc. Donc, ce sera à surveiller. Alors, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait cette semaine. On avait quand même beaucoup de matériel, vu qu'il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière. Donc, à nouveau, je remercie mes invités, Alex-Olivier Voyer du Phoenix de Sherbrooke, Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville, Joël Teasdale du Rocket de Laval. Merci à Roxane à la technique. Merci à Luc Danseau à la coordination. Et on se retrouve lundi prochain. Bye-bye tout le monde.